Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je pense que nous nous sentons un peu mieux. Nous respirons après une semaine éprouvante. Mais le Seigneur nous a gardés puisque vous êtes là ce matin. Et je voudrais, avant de poursuivre ce temps de prédication, prier. Notre Père, nous voulons encore nous placer devant toi en nous attendant à ce que tu nous parles ce matin. En nous attendant à ce que cette parole puisse tomber à point nommé pour ce que nous sommes en train de vivre peut-être en ce moment. Oui, je prie que Seigneur, ton esprit agisse à travers cette prédication, à travers la parole qui est apportée. Et effectivement, encore de moi, de pouvoir rester fidèle à ce que tu veux dire à ton peuple encore ce matin. Béni sois-tu pour ta parole et merci pour ce moment où nous pouvons nous mettre à l'écoute du Dieu Tout-Puissant. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Le verset d'aujourd'hui, je le lis avec vous, c'est Éphésiens 2, verset 10. « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je vous pose une question directe. Êtes-vous satisfait de votre vie? Alors, ne me répondez pas instantanément, mais êtes-vous satisfait de votre vie? Êtes-vous satisfait de votre manière de vivre actuellement? Personnellement, je ne le suis pas. Je ne suis pas satisfait de ma vie au regard de ce que je lis dans la parole de Dieu. Quand je lis le verset de ce matin, je ne suis pas satisfait de ma manière de vivre. J'aspire tant à vivre davantage comme Paul en parle dans cette lettre aux Éphésiens. Une vie de bonnes œuvres, parce que c'est dans ce but que le Seigneur m'a sauvé. J'aspire tant à pouvoir vivre cela. Et donc je ne suis pas satisfait de ma vie actuelle au regard de ce verset. C'est là tout le propos de Paul dans ce début de la lettre aux Éphésiens. L'apôtre expose dans la première partie de sa lettre, grosso modo les chapitres 1 à 3, ce que Dieu a accompli pour le salut des croyants. Et je me suis demandé pourquoi Paul leur écrivait tout ça. Après tout, ces chrétiens d'Éphèse avaient été déjà enseignés. Est-ce qu'ils ne savaient pas déjà tout ça ? Est-ce qu'ils ne savaient pas déjà le fait qu'ils étaient sauvés par grâce? Pourquoi Paul leur écrit cela et leur redit ces choses? Eh bien, j'ose croire que non seulement ils le savaient déjà, mais que Paul, inspiré par l'Esprit Saint, a jugé nécessaire d'affirmer, peut-être de nouveau, la grandeur de ce que Dieu avait fait pour eux, pour qu'ils puissent rester attachés à l'Évangile. L'Évangile, c'est bien le message qui est au cœur de notre foi. Et c'est pour cela qu'il est répété sans cesse, afin qu'on ne puisse pas s'éloigner de ce message-là. Et je pense que si Paul rappelle des vérités que les Éphésiens connaissent déjà, c'est pour leur dire, ça c'est important, retenez-le. Et c'est une chose de le savoir, c'est une chose de connaître le message de l'Évangile et d'y croire. Mais c'en est une autre de vivre en conséquence, de vivre selon l'Évangile. Et l'Évangile nous dit que Dieu nous a sauvés par grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et si nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous, alors est-ce que nous vivons comme des personnes qui ont été sauvées ? Et j'ajoute même comme des personnes qui ont été recréées. Et j'y reviendrai plus tard. Mais je vous propose qu'on puisse examiner le texte de plus près. Et je vais aborder justement l'Évangile de nouveau, parce qu'il est contenu dans les versets 1 à 10. Et ensuite, je me concentrerai davantage sur le verset 10. Et j'aimerais lire, et même relire, parce que vous connaissez aussi ce texte pour beaucoup d'entre vous, le début du chapitre 2. « Quant à vous, Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce texte, nous l'avons étudié notamment dans le groupe de préparation au baptême. Et donc, si un tel texte figure dans une préparation au baptême, eh bien, ça signifie aussi que c'est un texte de base pour tout chrétien. Et avant d'aller un peu plus loin, je vous propose d'observer un petit peu comment notre texte est structuré. Vous savez, parfois dans la Bible, quand nous prenons une section, comme c'est le cas ici des versets 1 à 10, quand nous prenons une section de la Bible, il est intéressant de regarder ce qui est dit au début et ce qui est dit à la fin de cette section. C'est une manière d'observer le texte et d'être attentif à comment l'auteur a écrit son texte. Et donc c'est intéressant de voir ce qui est écrit au début et ce qui est écrit à la fin. Et je vous propose de faire cet exercice-là. Je vais relire les deux premiers versets et le dernier verset de notre passage. Vous allez essayer d'observer qu'est-ce qui est différent. Alors ça va bien sûr sauter aux yeux, mais aussi, est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve au début et à la fin? Je relis ces versets. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Je lis le verset 10. « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Je vous laisse un petit temps de réflexion. Qu'est-ce qui est différent? En fait, tout oppose le début de ce passage et la fin. Puisque d'un côté, au verset 2, on parle des anciennes pratiques, de l'ancienne manière de vivre, celle qui déplaisait à Dieu. Et puis au verset 10, il est question des nouvelles pratiques, en quelque sorte, de la nouvelle manière de vivre, celle qui désormais plaît à Dieu. Donc ça, c'est au niveau des différences. Mais vous remarquez qu'il y a une expression qui revient au début et à la fin de notre section. Est-ce que vous avez repéré ce qui était répété? Oui, le verbe « pratiquer ». Au début, les fautes, les péchés que vous pratiquiez autrefois, et à la fin, les bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Et c'est intéressant de voir cette répétition et de nous dire, mais alors d'où vient le changement? Comment on est passé de l'un à l'autre? Eh bien, comment on est passé de l'un à l'autre? Ce sont les versets au milieu qui vont nous l'expliquer. La réponse, c'est que Dieu est intervenu. Comment on est passé du verset 2 au verset 10? Parce que Dieu est intervenu et que ça change toute la donne. Alors, permettez-moi de vous annoncer de nouveau l'évangile à partir de ces versets. Paul parle d'autrefois. Autrefois, c'est-à-dire avant de connaître Christ, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Autrefois, vous viviez selon l'esprit de ce monde qui a rejeté Dieu. Autrefois, c'était le diable, celui qui est nommé dans notre texte le prince de la puissance de l'air, c'est lui qui vous tenait sous son influence. Autrefois, vous faisiez partie de l'humanité rebelle à Dieu. Et Paul continue avec le verset 3. Autrefois, vous suiviez les désirs de votre cœur non converti. Et par conséquent, vous étiez animé par toutes sortes de mauvais désirs. Je donne quelques exemples. Désir d'être au centre de l'attention. Désir de puissance, de dominer sur les autres. Désir d'être admiré par les autres grâce à vos performances et à vos réussites. Soif de posséder toujours plus, d'amasser des trésors sur la terre. Et la liste des mauvais désirs pourrait s'allonger encore très longuement. Et il faut avouer que les désirs que je viens de nommer n'ont pas totalement disparu, même une fois notre cœur changé. Ces désirs, nous les retrouvons, par exemple, dans le monde qui nous entoure. Et cela nous influence nécessairement, puisque nous vivons dans ce monde. La publicité qui nous environne, la culture ambiante, entretiennent ce que j'appellerais cette glorification de soi, qui est une injure, une insulte à l'égard de celui qui mérite toute la gloire, notre Dieu. L'homme n'a pas été créé pour prendre la place de Dieu. Et pourtant, c'est ce que nous observons tout autour de nous. Nous tous aussi, verset 3, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, dans cette condition où on était mort à cause de nos péchés, dans cette condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Autrefois, nous étions destinés à la colère de Dieu. Oui, autrefois, Dieu avait toutes les raisons d'être en colère contre nous. Colère justifiée d'après ce que je viens de décrire juste avant, parce que Dieu n'était pas au centre de notre vie. Autrefois, nous étions sous la condamnation. C'est ça que ça veut dire, être sous la colère de Dieu, être destiné à la colère. Nous étions condamnés. Et quand Paul dit « vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés », il fait sans doute référence à la même idée, que autrefois nous étions condamnés à mort à cause de nos fautes. En France, on parlerait d'une condamnation à perpétuité. Autrefois, nous étions condamnés. C'était notre condition. C'était notre condition avant de mettre notre foi en Christ. Et si Dieu n'avait pas tendu la main, nous serions toujours loin de lui, toujours enfermés dans cette cellule, dans cette prison, avec le reste des hommes. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a fait quelque chose pour nous. Il ne s'est pas contenté d'observer notre condition et de dire « ils n'ont que ce qu'ils méritent ». Non, il est intervenu en notre faveur. C'est ce que nous voyons à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, condamnés à mort, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, alors que nous étions irrécupérables et sans espoir que notre condition change, que notre condamnation soit levée, Dieu a eu compassion de nous. Et voyez ce qu'il animait à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et il nous arrive de le chanter, cet amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse, vous connaissez la suite, ce qu'on peut dire un cœur humain. Parce que Dieu nous aime, et vraiment il a fait ça par amour, de condamnés à mort que nous étions, il nous a ramenés du côté de la vie. Autrement dit, il nous a sauvés. Tout cela en lien avec Christ, tout cela en lien avec ce qu'il a accompli pour nous. Et en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Christ, il n'y a pas de nouvelle vie non plus. mais avec Christ, ou bien en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Et ça change tout. Sa mort à la croix et sa résurrection nous font changer de statut. De condamnés à mort, nous sommes alors déclarés justes. Christ a payé de sa vie pour nos fautes. Christ a fait face à notre place à la colère de Dieu que nous méritions. Notre statut a donc changé puisqu'il a pris notre place de condamné. Avant, nous étions sans Christ, nous étions sans espérance. Et à présent, depuis le jour où nous avons cru en l'Évangile, nous sommes en Christ. Dès lors que je mets ma confiance en Jésus, je bénéficie de ce qu'il a fait pour moi. Si on ne met pas sa confiance en Jésus, on ne bénéficie pas de ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous n'a aucun effet sur notre vie. Mais parce que nous plaçons notre confiance en croyant que effectivement ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi, pour nous, cela fait toute la différence. Je suis désormais par la foi uni avec lui, solidaire de ce qu'il a accompli pour moi. Pour le dire encore autrement, il est mort, c'est vrai, et c'est lui qui est mort, mais parce que je suis solidaire avec lui, je suis mort avec lui, comme si c'était moi-même qui avais payé. Il est ressuscité, et parce que je suis uni à lui, je suis ressuscité avec lui. J'obtiens grâce à Jésus le droit d'avoir une nouvelle vie. Ce droit, je ne l'ai pas obtenu de moi-même, mais je l'obtiens grâce à Jésus. J'obtiens le droit de vivre, de ne plus être condamné à mort. Depuis le jour où nous avons cru en l'Évangile, nous sommes à jamais en Christ, unis avec lui, pour toujours. Pour toujours. Et vous le voyez au verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Cette délivrance, ce salut que nous connaissons et que nous chantons, ce salut que Dieu a opéré, démontre sa grâce surabondante et sa bonté. Le fait que Dieu sauve des pécheurs qui ne le méritent pas est la preuve qu'il est bon. Si Dieu sauve des pécheurs qui ne le méritent pas, cela montre qu'il est bon. Parce qu'il n'a aucune obligation pour le faire. Il pourrait très bien appliquer juste sa justice et nous laisser dans la condamnation. Mais il est bon. C'est ça toute la différence. Il est bon, il est compatissant, riche en compassion. Il a vu notre misère, il a vu qu'on ne pouvait pas s'en sortir tout seul, et il est intervenu. Dieu est bon. De l'époque de Paul au 1er siècle jusqu'à nos jours, l'Évangile qui raconte ce que Dieu a fait pour l'humanité pécheresse témoigne d'une grâce infinie. On ne pourrait même pas calculer, à l'heure actuelle, le nombre de chrétiens qu'il y a eu depuis ce moment-là. Sa grâce est infinie. Une grâce que nous ne cesserons de célébrer dans les siècles à venir. Vous voyez dans ce verset 7, dans les temps à venir, mais il n'y a pas de limite dans ces temps à venir. Donc en fait, jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité, nous chanterons encore la grâce de Dieu. Alors que nous méritions une condamnation à perpétuité, Dieu a choisi dans son amour de nous retirer cette peine éternelle et que son Fils Jésus-Christ subisse ce châtiment à notre place. Donc, Paul ne peut que dire, notamment au verset 5, mais aussi au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut ne vient pas de nous. Rien, aucune bonne action de notre part n'est suffisante pour nous assurer le salut. Si ça devait dépendre de nous et de notre capacité à obéir à Dieu, personne d'entre nous ne serait sauvé. Parce que Dieu exige une obéissance parfaite, sans péché. Donc si ça devait dépendre de nous, nous ne serions pas sauvés. Seule la grâce imméritée de Dieu, seule l'œuvre suffisante de la croix nous assure le salut, nous garantit que nous serons sauvés. À condition, bien sûr, d'accepter cette main tendue par Dieu. Lors d'une noyade, si quelqu'un vous tend la main alors que vous êtes en train de vous noyer, je pense que vous n'allez pas hésiter longtemps à la saisir. Et vous n'allez sûrement pas dire après coup que c'est grâce à vous que vous vous en êtes sorti. Le fait de saisir la main tendue, c'est l'image que j'utilise pour parler de la foi. Dieu nous tend la main et de notre côté, il faut la saisir. C'est la foi. Et vous n'allez pas dire « ce geste que je suis en train de faire m'a sauvé la vie ». Mais vous allez dire « cette personne m'a sauvé la vie ». Celle qui m'a tendu la main. Le salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi même vient de Dieu. Sans l'action du Saint-Esprit en nous, pour nous convaincre, pour changer notre cœur, nous n'aurions même pas voulu saisir en fait cette main. Notre discours plein d'arrogance aurait été « autant crever que de me laisser sauver par quelqu'un ». Et malheureusement, certains de nos contemporains ont ce discours et pensent ainsi. Mais Dieu a tout fait pour nous sauver. Dieu a tout fait pour que nous acceptions sa main tendue. Et après avoir été sauvés de cette manière, pouvons-nous raisonnablement vivre comme autrefois? Absolument pas. Dieu a prévu autre chose pour nous. Et dans le message de l'Évangile, il y a la bonne nouvelle d'un changement radical. Il y a la bonne nouvelle d'une nouveauté que seul Dieu peut produire en nous. Et je pense que c'est une chose qui est importante d'expliquer lorsque nous annonçons l'Évangile, qu'il y a un changement radical qui se produit en la personne. Que seul Dieu peut produire. Et je voudrais aborder ce thème qui est aussi dans notre texte de la nouvelle création. Parce qu'avant de parler des bonnes œuvres, il faut d'abord parler de l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors c'est un peu dommage ici que la traduction n'ait pas gardé l'expression originale. Donc là où il est écrit, c'est lui qui nous a fait, littéralement, c'est nous sommes son ouvrage. Et en grec, nous sommes son poiema. Et quand vous entendez poiema, ça ressemble en français à poème. Nous sommes son poème. Une création de toute beauté. Paul fait référence ici à la nouvelle création. Celle qui est en train de réparer ce qui a été abîmé par le péché. Et la suite du verset permet justement de l'affirmer. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors je vous pose la question, est-ce que tous les hommes de la terre ont été créés en Jésus-Christ? Non. Ce sont les chrétiens, celles et ceux qui ont placé leur foi en Christ, qui ont été créés en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit cela? Eh bien cela veut dire tout simplement qu'en étant unis avec Christ, nous devenons une nouvelle créature. Je mentionne un verset que nous connaissons, 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, uni avec Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc tout le monde, tous les hommes, n'ont pas été créés en Christ. Pour cela, il faut avoir placé sa foi en lui. Enfin, plus exactement, c'est ce que Dieu produit pour nous amener justement à avoir foi en lui. Dans la Bible, nous avons plusieurs manières d'exprimer cette même réalité. Et vous allez comprendre que tout cela est synonyme. Parfois, nous parlons du fait que nous avons reçu un nouveau cœur. Parfois, nous disons que nous sommes nés de nouveau. Parfois, nous disons que notre cœur a été circoncis. Eh bien, tout cela rejoint la même réalité. Tout cela fait référence à ce qu'on appelle en théologie la régénération. Notre situation était tellement désespérée et irrécupérable qu'il nous fallait une intervention de Dieu pour faire de nous une nouvelle créature, une créature régénérée. Le péché avait tellement abîmé, tellement corrompu notre être, de la tête aux pieds et jusqu'au plus profond de notre cœur, qu'il fallait une intervention de Dieu pour commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous nous sommes convertis, Dieu a opéré un travail en profondeur pour transformer notre nature. Et Henri Blocher a écrit à ce sujet « La régénération renverse la tendance au péché ». Oui, avant de connaître Christ, naturellement notre cœur tendait vers le péché. C'était attirant, c'était irrésistible, c'était naturel. Mais quand Dieu est intervenu pour changer notre cœur, il a commencé à inverser la tendance. De telle sorte que nous avons commencé à éprouver du dégoût pour ce que Dieu déteste et à aimer ce que Dieu aime. La régénération renverse la tendance au péché. Dieu renverse la vapeur. Alors que naturellement on irait dans ce sens-là, Dieu renverse la vapeur. Il est en train de changer notre nature. Et c'est très important de le comprendre. Parce qu'autrement, la suite, quand on va parler des bonnes œuvres, on pourrait être désespéré de dire « je n'y arrive pas ». Mais si nous comprenons que nous sommes en train d'être transformés, alors soyez sûrs que nous en sommes capables. Oui, quand Dieu est intervenu pour changer notre cœur, il a commencé à inverser la tendance. Et devenir chrétien, c'est bien plus que d'adhérer à une religion. C'est recevoir de Dieu un nouveau cœur. C'est recevoir de Dieu une transformation de notre être, un renversement de notre tendance au péché. C'est ça, devenir chrétien. Et je dirais brièvement encore un mot sur le sujet de la nouvelle création. La parole de Dieu nous enseigne que le projet de Dieu est de renouveler toute la création. Parce que toute la création a été abîmée, corrompue par le péché. Donc Dieu va tout renouveler. Et ce qui est remarquable et ce qui constitue notre privilège, c'est qu'il commence par les pécheurs qu'il sauve. Il commence par nous. Il commence par son Église, avant de renouveler tout le reste. Et Dominique Anger, qui a écrit un commentaire sur cette épître, relève ce détail. L'Église s'inscrit dans un projet de nouvelle création de grande envergure, qui a pour but de récapituler ou de réunifier, de rétablir la première création gâchée par le péché. C'est dans cela que nous sommes intégrés, dans ce projet de Dieu, où Dieu va renouveler toute la création. Mais il commence déjà avec son Église. Si vous voulez, nous sommes en quelque sorte le prototype de la nouvelle création. Dieu démarre sa nouvelle création avec nous qui sommes unis à Christ. Une nouvelle humanité. Et notre transformation radicale fait donc partie du plan de Dieu. Et si notre être intérieur change, eh bien cela va aussi affecter notre manière de vivre. Et c'est là que j'aborde le sujet des bonnes œuvres évoqué au verset 10. Je relis encore ce verset 10 qui est au cœur de ce message. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En quoi consiste la vie chrétienne si ce n'est à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? En tant que nouvelle créature, notre vie s'aligne désormais sur ce que Dieu veut. Et nous avons vu ce que cela donnait lorsque nous prenions nous-mêmes le contrôle de notre vie, ou lorsque nous faisions ce que nous voulions. Eh bien, le résultat, c'était une vie qui déplaisait à Dieu, parce qu'il n'en était pas le centre. Mais en tant que nouvelle créature recréée, ayant un nouveau cœur, eh bien nous nous orientons vers ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et tout comme Dieu avait décidé d'avance de nous faire venir à Christ, il a aussi décidé d'avance, préparé d'avance les bonnes œuvres à accomplir dans cette nouvelle vie. Et dire que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, ça indique que toute notre vie est caractérisée par les œuvres bonnes, par le bien, par l'accomplissement de ce que Dieu veut, par l'obéissance à sa parole. Je cite à nouveau Dominique Angers qui dit à propos des œuvres bonnes, Paul a en vue en fait toute l'obéissance chrétienne, toute la marche du croyant. C'est ça lorsqu'on parle des œuvres bonnes, c'est pas une à une, c'est finalement ça englobe toute la marche du croyant. Il ne s'agit pas que de quelques bonnes actions de temps en temps, mais de l'ensemble de notre vie. Alors nous avons vu la raison pour laquelle nous devons pratiquer de bonnes œuvres, parce que nous avons été créés en Jésus-Christ pour ça. Notre cœur a été transformé pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Mais la question suivante, c'est comment ? Comment savoir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi ? Eh bien, premièrement, je dirais qu'il ne faut pas en faire une obsession. Dans le sens où nous finirions par craindre de passer à côté des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le verset ne nous invite pas à jouer en permanence aux devinettes. Si Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres pour nous, il nous y conduira par son esprit et par sa parole. Et ce sera différent pour chacun d'entre nous selon l'endroit où nous vivons, selon les personnes que nous côtoyons, selon les responsabilités et les engagements que nous avons, selon même les imprévus que nous allons rencontrer dans une journée. Les œuvres bonnes seront différentes d'une personne à l'autre. Et le bon réflexe est sans nul doute de demander au Seigneur « Quel bien, quelle bonne œuvre veux-tu que je fasse dans ce domaine de ma vie ou avec telle personne ?» Deuxièmement, Dieu mentionne dans sa parole les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Si nous devons chercher quelles sont ces bonnes œuvres, elles se trouvent dans sa parole. Il les mentionne, il en parle. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, nous lisons « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Pour le dire d'une autre manière, toutes les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance sont dans sa parole. Il n'y a pas à chercher et à chercher par devinette. C'est par sa parole que nous savons vers où Dieu nous conduit. La parole que vous lisez durant la semaine, la parole que vous entendez le dimanche, est faite pour être appliquée. Si aujourd'hui, et je prends l'exemple d'aujourd'hui, Dieu vous incite à penser votre vie en termes de bonnes œuvres, c'est précisément la volonté de Dieu pour vous en ce moment, pour moi aussi. Si Dieu nous incite en ce moment à penser notre vie en termes de bonnes œuvres, c'est que c'est sa volonté en ce moment pour nous. Et si demain vous lisez un texte qui évoque le pardon, eh bien la bonne œuvre est de pardonner à votre prochain. Et si après-demain il est question de générosité dans le texte que vous êtes en train de lire, vous allez peut-être penser à soutenir financièrement une œuvre chrétienne que vous connaissez, par exemple. Et si le jour suivant, Dieu vous dit dans sa parole d'avoir confiance en lui au milieu des épreuves, la bonne œuvre qu'il a préparée d'avance et que vous lui fassiez confiance en tout temps. Donc je disais, premièrement, il ne faut pas en faire une obsession, mais Dieu nous conduit dans ses bonnes œuvres et que pour la situation des uns et des autres, ça peut être différent. Deuxièmement, que Dieu mentionne dans sa parole quelles sont ses bonnes œuvres en question, qu'il n'y a pas à essayer de deviner qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Et puis troisièmement, que si nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, cela signifie qu'en fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons doivent se conformer à ce qui est bien, doivent être qualifiés de bonnes œuvres, doivent correspondre à ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et comme Paul le dit dans une autre de ses lettres, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Ainsi donc, que vous mangiez, bonne œuvre ou pas, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et donc là, on ne s'intéresse pas juste à une action ponctuelle, mais en fait, ça englobe, comme je l'ai dit déjà, l'ensemble de notre vie et de notre marche avec le Seigneur. Les bonnes œuvres correspondent à cette vie où nous marchons constamment dans l'obéissance à Dieu. Et personnellement, je n'y suis pas encore à marcher constamment dans l'obéissance à Dieu. Mais ça m'enchante. Ça me réjouit de savoir que ce que Dieu veut pour ma vie, c'est qu'elle soit une vie pour sa gloire. C'est que ma vie soit une vie pour sa gloire. Ça, ça m'enchante. Que ça soit une vie où je fasse sa volonté, qui est bonne. Que ça soit une vie où Dieu continue de me transformer pour que je ressemble de plus en plus à Jésus. Oui, ça, ça m'enchante. Et parlons justement de Jésus. Jésus, Dieu fait homme. Jésus qui est venu parmi les hommes et qui a donné sa vie pour nous. Jésus, l'homme parfait, l'homme accompli, l'homme qui plaît toujours à Dieu, l'homme qui dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Oui, alors que je me mets en marche pour vivre selon la volonté de Dieu, je suis déjà en train de devenir conforme à l'image du Fils de Dieu, de ce Jésus que je viens de décrire. Alors j'ai toute confiance que Dieu achèvera son œuvre pour qu'effectivement je sois semblable à Christ. C'était le verset de l'année. Alors c'est vrai que je ne l'aborde qu'en milieu d'année, ça peut être un peu étonnant, mais comme vous l'aviez toujours constamment dans la lettre d'info, normalement ça ne vous a pas échappé que c'était le verset de l'année. Et que sans doute, en ce milieu d'année, c'est intéressant de l'avoir sous les yeux encore et de le garder pour le reste de cette année. De se dire qu'en fait, dans les 6 mois qui viennent, bien sûr aussi au-delà, mais dans les 6 mois qui viennent déjà, ma vie doit ressembler à cette vie d'œuvre bonne. Tout pour la gloire de Dieu. Et je veux vous laisser 2 questions de réflexion pour terminer. Premièrement, en comprenant qu'en Christ, vous êtes une nouvelle créature, comment cela change-t-il votre regard sur vous-même et sur votre manière de vivre? Si vous savez que, voilà, on vient de le voir, que vous êtes une nouvelle créature en Christ, en quoi ça change votre regard sur vous-même et en quoi ça change votre manière de vivre? C'est sans doute très différent que si vous n'étiez pas une nouvelle créature. Deuxièmement, quelles sont les bonnes œuvres que vous allez pratiquer durant cet été, puisqu'on est dans cette période estivale? De quelle manière allez-vous glorifier Dieu tous les jours de cet été? Alors c'est vrai que la question est vaste, mais elle mérite réflexion. Qu'est-ce que vous allez faire de cet été par rapport à ce verset d'Éphésiens 2, 10? Je vous invite à prier. Notre Père, ta parole est cette lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Et peut-être que, effectivement, ce matin, elle a éclairé des zones d'ombre qu'il y avait dans notre vie, en mettant le doigt sur ce qui n'allait pas dans notre manière de vivre, une manière de vivre qui n'était pas conforme à ce que tu attendais de nous. Une manière de vivre qui n'était pas en correspondance avec le fait que désormais en Christ nous sommes une nouvelle création. Alors aide-nous encore par ta parole et par l'action de ton esprit à pouvoir vivre cette vie comme tu nous la demandes, en œuvrant pour le bien dans tous les domaines de notre vie, auprès de toutes les personnes que nous côtoyons, de pouvoir dans nos pensées être capable de pouvoir penser de manière pure, de manière à ce que ça soit digne d'approbation, à ce que ça puisse être juste. Oui, donne-nous, Seigneur, de pouvoir être renouvelés sans cesse. On a besoin de toi, Seigneur, encore, pour être entièrement transformés, pour que cette transformation que tu as commencée puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à la pleine ressemblance à Christ. Et pendant que tu fais cela, nous voulons, oui, compter sur toi pour pouvoir effectivement marcher dans cette nouvelle vie, une vie riche en œuvres bonnes, une vie riche en œuvres qui te plaisent et qui correspondent à ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Oui, nous te le demandons. Nous avons besoin de toi. Et merci parce que tu nous fais comprendre que ce ne sont pas ces œuvres-là qui nous sauvent, mais uniquement ce que Christ a fait pour nous. Et nous te bénissons pour cela, parce que à jamais nous sommes unis à lui. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.